Vous écoutez RTL.
7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Êtes-vous rassuré après la journée de consultation d'hier sur les intentions du gouvernement et du président de la République ?
On n'est pas plus rassuré qu'avant de rentrer. Nous avons fait des propositions au Premier ministre, lutter contre le chômage, qui est la priorité des Français. Nous allons voir si nos propositions ont été entendues.
Est-ce que vous doutez quand même de l'engagement du président de la République, qui, un an avant la présidentielle, a quand même besoin de voir le chômage diminuer ?
Il y a besoin d'actes concrets. Pour l'instant, la lutte contre le chômage se traduit surtout par des artifices pour faire diminuer le nombre de chômeurs.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Par exemple, quand on parle de formation des chômeurs qui est nécessaire, il faut cibler quels chômeurs ont besoin de formation, mais c'est surtout que quand des chômeurs sont en formation, ils ne sont plus dans les chiffres du chômage. Donc ça, c'est plus de la communication que des actes
mais
concrets.
Mais vous imaginez que ce plan de formation de 500 000 chômeurs de longue durée, c'est un traquenard de communication plutôt qu'une volonté réelle
y a besoin
de remettre des personnes
au travail ? Il y a besoin, pour faire travailler les gens, de savoir où sont les emplois. Et pour l'instant, la cartographie des emplois demandés, M. Gattaz parle souvent qu'il est en rupture d'offres d'emploi, enfin en tout cas de personnes qui veulent travailler, il y a besoin d'être précis là-dessus. La deuxième chose, c'est que tous les chômeurs ne sont pas sans formation. Moi, je connais plein de privés d'emploi, des jeunes qui ont des diplômes, et leur première préoccupation, enfin leur premier problème, c'est pas de se former, c'est de trouver un travail. Donc là aussi, vis-à-vis de ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc voilà, il y a besoin de bien cibler les problèmes.
Mais vous n'êtes peut-être pas formés dans les voies qui permettent d'obtenir de l'emploi ?
Mais des jeunes qui ont des bacs plus 2, bacs plus 3, des bacs, des CAP, dans les métiers industriels par exemple, ils ont une bonne formation, parfois même ils ont une formation sur des technologies nouvelles. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc voilà, comment on cible quel besoin d'emploi, où sont ces besoins d'emploi et comment les entreprises embauchent.
Mais pour vous, pourquoi la France ne parvient-elle pas à réduire le nombre de chômeurs alors que dans les pays voisins, on y parvient ? Les conditions économiques sont les mêmes, l'euro a baissé, le prix du pétrole également a baissé. Pourquoi on n'en profite pas ?
Tant qu'on considérera que le travail est un coût, et donc il faut absolument réduire le nombre de gens au travail et augmenter la productivité au détriment des conditions de travail, on sera à cette situation. D'ailleurs, c'est ce que propose le MEDEF. Quand le MEDEF dit il faut d'abord penser comment licencier avant de commencer à embaucher, on est bien dans cette logique que les salariés sont des variables d'ajustement pour augmenter les bénéfices des actionnaires.
Vous ne croyez pas du tout à cet argument selon lequel, en effet, patron a peur d'embaucher parce qu'il se dit que s'il doit licencier...
Ça fait 30 ans qu'on nous dit ça.
Il va connaître beaucoup de problèmes.
Je crois que le père de M. Gattaz le disait déjà. Vous savez, c'était la fameuse formule « Les licenciements d'aujourd'hui sont les emplois de demain ». Ça fait 30 ans qu'on entend ça. Est-ce que le chômage a baissé avec ce genre d'argument et ce genre de solution ?
Mais est-ce que vous croyez que les patrons prennent plaisir à licencier ?
C'est pas ça le problème. Il y a des entreprises qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. 2015 a été une année record de dividendes versés aux actionnaires. Nous avons proposé, par exemple, au Premier ministre, qu'il y ait une mutualisation des moyens au niveau du patronat, c'est-à-dire que les très grandes entreprises où il y a beaucoup d'argent, eh bien, au lieu de verser beaucoup d'argent aux actionnaires, prennent un peu de cet argent pour aider les petites entreprises, les artisans à embaucher. Par exemple, sur l'apprentissage, beaucoup d'apprentis ne trouvent pas d'emploi à l'issue de leur apprentissage.
Pourquoi ?
Parce que, justement, les petits patrons ne peuvent pas assumer un niveau de salaire correspondant à la qualification. Eh bien, dans les grandes entreprises, il y a besoin de dégager des moyens pour qu'il y ait de la solidarité patronale.
C'est-à-dire
c'est la CGT qui
finance l'embauche d'un apprenti, par exemple ?
Exactement, ou paye un complément de salaire, paye les cotisations sociales. Vous voyez, il y a des très grands groupes qui ont beaucoup d'argent. Comment on fait pour qu'il y ait de la solidarité patronale ? Il y a d'ailleurs des entreprises qui ne payent pas du tout d'impôts. Là aussi, il faudra rectifier la situation. Vous voyez
mais est-ce que la France est un îlot dans le monde ? Parce que finalement, ce que vous décriviez tout à l'heure sur le fait que les salariés sont des variables d'ajustement, c'est aussi une résultante de la mondialisation. La France seule ne va pas corriger tout ça.
Oui, mais la question c'est, est-ce que le modèle, c'est le retour à des conditions de travail déplorables ? Enfin, je sais que M. Gattaz, son modèle, c'est la Chine. Ça peut être son modèle, c'est-à-dire un pays où les syndicats sont interdits, où les gens sont payés avec un lance-pierre, si vous me permettez l'expression, où on travaille 12 heures par jour. Mais ça, c'est le retour vers le passé. Nous sommes modernes. Une société moderne, c'est plus d'évolution technologique, mais aussi plus d'évolution sociale pour les salariés. Voilà, c'est ça la modernité. On ne peut pas se satisfaire de salariés qui travaillent 12 heures par jour, qui sont payés 500 euros, 400 euros, 300 euros. Comment on fait pour vivre ?
Mais quand même, est-ce que finalement, en France, le code du travail, la protection sociale n'est pas plus garantie pour les salariés qu'elle ne l'est ailleurs ? Et du coup, cela se fait au détriment des chômeurs parce que, effectivement, les patrons disent « ben non, il y a une telle protection sociale qui ne répond plus aux conditions de la vie économique mondiale que nous, on ne va pas embaucher ».
Non, non, ça, c'est, ça aussi, c'est des arguments du passé. Le code du travail n'est pas un problème. La sécurité sociale, c'est un atout pour notre pays. D'ailleurs, beaucoup de salariés du monde nous l'envient. Le problème, c'est l'argent dégagé des entreprises. Il faut savoir où on l'investit, soit en bourse, mais ça, ça ne sert à rien, soit dans le progrès social. Et donc, nous, on mise, d'ailleurs, avec d'autres syndicats en Europe, sur des évolutions sociales. Par exemple, on est nombreux de syndicats en Europe à demander l'augmentation des salaires, à demander la réduction du temps de travail, à demander plus de protection sociale.
Et on entend dire que, finalement, c'est peut-être Myriam El Khomri qui va gérer à elle seule, présenter à elle seule, une seule loi sur les conditions de l'emploi et les répercussions du numérique sur l'emploi, plutôt que de voir monter en ligne M. Macron. Ça vous rassure ?
Ça, faut demander. C'est pas mon problème, c'est le problème de M. Valls.
Non, parce que Emmanuel Macron, c'était pas votre tasse de thé.
C'est pas une question de tasse de thé. Ça, c'est le problème du gouvernement. Par exemple, vous parlez du numérique. On nous fait beaucoup d'histoires sur le numérique. Le numérique, c'est une évolution technologique. Et comme toutes les évolutions technologiques, il faut que, évidemment, ça serve à améliorer l'efficacité des entreprises, mais en même temps, ça doit se traduire par du progrès social. Ce n'est pas la première évolution technologique que nous connaissons dans le monde. Il y en a eu d'autres.
Comment allez-vous faire barrage à l'adoption des conditions de licenciement, de la rédaction des conditions de licenciement au moment de l'embauche ?
Pour l'instant, nous, on a fait des propositions aux syndicats.
Vous sentez bien que ça va venir, ça.
Pourquoi, quand les syndicats font des propositions, on dit non, ça sert à rien. Nous sommes un syndicat qui fait des propositions. On a fait des propositions au Premier ministre. Je vous ai parlé de mutualisation des moyens dans les entre les entreprises.
Vous êtes placide ce matin, là. Vous ne dites pas, on va mobiliser, on va faire descendre les gens.
Je vous dis qu'on fait des propositions. Et pour que les propositions aboutissent, ça marche toujours comme ça. Il faut des mobilisations. D'ailleurs, il y en a quelques-unes déjà dès le mois de janvier, je pense. Chez les salariés de l'énergie, chez les fonctionnaires, à la fin du mois. Donc, nous avons des propositions. Et en général, le monde du travail, quand il veut que ces propositions aboutissent, il faut se mobiliser. Ça n'a pas changé.
Dernière question. Laurence Boone, qui est la conseillère économique de François Hollande, va repartir dans le privé, chez AXA, comme avant elle, d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui occupait le même poste. C'est bien ces allers-retours entre le privé et le public ?
Ce sont des carrières personnelles. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes en face de nous qui prennent en compte nos problèmes, qui prennent en compte nos propositions, qui travaillent dans la durée.
Bah, aller dans la vie économique des entreprises.
Oui. Nous, les salariés sont tous dans la vie économique des entreprises. Ils ont plein de propositions. Il faut les écouter aussi. Les salariés, ils sont au boulot, ils travaillent, ils connaissent l'entreprise. Et quand on les écoute, en général, ça marche beaucoup mieux.
Merci, Philippe Martinez.
Merci à vous.
Une toute dernière question, Philippe Martinez. La FNAC qui veut multiplier par 3 les salaires des employés qui travailleront le dimanche. Vous en pensez quoi ?
Le travail du dimanche, vous connaissez notre position, c'est souvent une solution, je le comprends, pour certains jeunes, des étudiants. Le problème de ces jeunes, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire leurs études sans travailler. Le jour où ces jeunes pourront faire leurs études sans travailler, eh bien, il n'y aura plus de problème. Le dimanche, et comme d'autres jours, 2 jours de repos par semaine, c'est indispensable. Baissons le temps de travail, on aura le temps d'aller faire ses courses et aller à la FNAC le vendredi, en fin d'après-midi, le jeudi, le mercredi après-midi, vous voyez ?
J'ai compris.
Vous avez compris ?
Oui, votre entretien avec Olivier Mazerolle est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.